France Inter.
Aujourd'hui, acidification des océans, une nouvelle limite franchie, racontée par...
Sabrina Speich, océanographe physicienne, professeure à l'École normale supérieure.
Et Laurent Bopp, océanographe et climatologue au CNRS.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Au tournant des années 2000, une question a commencé à hanter les scientifiques qui étudiaient le système Terre. Et si l'humanité avait déjà franchi les limites de ce que la planète pouvait encaisser? Pendant des décennies, nous avons observé les signes du dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, l'épuisement des sols et des ressources, sans relier clairement ces phénomènes entre eux. Et puis en 2009, un groupe de chercheurs, dirigé par le scientifique suédois Johan Rockström, propose un cadre simple, presque brutal dans sa clarté, en affirmant que la Terre possède des limites planétaires. Dans une publication fondatrice, ils décrivent 9 grands processus biophysiques qui maintiennent la stabilité du système Terre. Le climat, l'eau douce, la biodiversité, l'usage des sols, la couche d'ozone, les cycles de l'azote et du phosphore, la charge en aérosol, les nouvelles entités chimiques et... l'acidification des océans. Pour chacun de ces processus, les chercheurs identifient un seuil à ne pas dépasser. Tant que nous restons à l'intérieur de ces frontières, nous demeurons dans ce qu'ils appellent un espace de fonctionnement sûr. Au-delà, les équilibres du système Terre deviennent imprévisibles, susceptibles de basculer vers un autre état, moins favorable à la vie telle que nous la connaissons en ce moment. L'étude a marqué un tournant, elle a replacé l'humanité dans le cadre physique et chimique de la planète, rompant avec l'illusion d'une croissance infinie sur un monde fini. Elle a aussi révélé que plusieurs de ses frontières étaient déjà franchies, le climat, la biodiversité, les cycles de l'azote. D'autres, plus silencieuses, approchaient dangereusement du seuil critique et parmi elles donc l'océan. L'OTAN perçu comme un régulateur, un tampon capable d'absorber nos excès de dioxyde de carbone, il se transforme lentement sous nos yeux en s'acidifiant. La frontière planétaire de l'acidification des océans qui semblait encore tenable il y a 15 ans est désormais franchie dans plusieurs régions du globe. Ce n'est plus une hypothèse, c'est une mesure et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Six des 9 limites planétaires ont été dépassées et cette année, nous sommes contraints de conclure qu'une 7e limite a également été franchie. C'est l'acidification des océans qui entre dans une zone à risque. Ces 7 limites continuent malheureusement d'évoluer dans la mauvaise direction. Nous ne sommes pas encore dans la zone à haut risque, avec des conséquences ingérables et irréversibles. Cela veut dire que nous pouvons encore agir.
La voix du chercheur suédois Johan Rockström, c'était le 24 septembre dernier sur la chaîne YouTube Planetary Boundary Science, traduit par Lucille Jour de Moalic. Sabrina Speich et Laurent Bopp, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue. En quoi d'abord cette notion de limite planétaire qui a émergé donc en 2009 a aidé à comprendre et à communiquer autrement sur le système Terre, Laurent Bopp?
Oui, cette notion de limite planétaire, elle est intéressante à plusieurs titres. Pour moi, le premier centre d'intérêt, c'est de regrouper ensemble les différentes crises environnementales, de mettre tout sur la table et de pouvoir intercomparer finalement notre impact sur le climat, sur la biodiversité, sur la façon dont on utilise les sols, sur les pollutions dans les différents milieux. Et donc on a un indicateur, une série d'indicateurs qui nous permet d'intercomparer et d'avoir en tête toutes ces crises environnementales et la façon dont on doit changer pour ne pas dépasser ces limites planétaires.
Et c'est une sorte d'état des lieux? Est-ce qu'il est exhaustif d'ailleurs ou pas?
Alors non, il est très loin d'être exhaustif. C'est évidemment une très grande simplification d'un système qui est très complexe. Donc il y a un certain nombre de critiques sur cette utilisation et sur ce cadre conceptuel des limites planétaires, mais son intérêt, encore une fois, c'est de regrouper ces informations dans un cadre simple.
Et aussi, Sabrina Speich, à devenir un outil d'alerte, précisément, auprès du public et des décideurs.
Notre système, il est très fragile et très complexe surtout. Et donc, avoir des indicateurs avec certains chiffres clés, ça aide les décideurs, les non-scientifiques.
Ça devrait aider en tout cas, normalement.
Bah déjà, ça, je pense que déjà, pour ce qui concerne le climat, donc les frontières ne sont pas exactement les, celles qui sont prises ici, c'est pour le climat, mais par exemple, le réchauffement de la Terre, c'est quelque chose que tout le monde comprend désormais. Et donc, avoir un ensemble d'indicateurs pour faire un état de santé du système complexe, ça permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble qui sinon demanderait beaucoup, beaucoup d'explications.
Laurent Bob, qu'est-ce que ça implique, le fait que plusieurs limites soient déjà dépassées et que l'acidification de l'océan entre à son tour en zone de risque ?
Ce que ça implique, c'est qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire. On le dit sur le climat depuis déjà assez longtemps. Des travaux récents montrent qu'on va sans doute dépasser les 1,5 degrés, qui sont un des objectifs phares de l'accord de Paris. La limite planétaire qui concerne le climat, elle est encore plus restreinte dans ce cadre conceptuel des limites planétaires, c'est 350 parties par million du CO2, on l'a dépassé déjà depuis longtemps, et on voit bien que sur d'autres limites planétaires, on est déjà allé au-delà de ce que les auteurs définissent comme limite planétaire, donc le fait qu'on franchisse une nouvelle limite planétaire, c'est un mauvais signe, nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire pour rester dans une planète habitable.
Ouais. Et pour vous, Sabrina Spech, qu'est-ce que ça veut dire aussi en tant que scientifique, de voir une nouvelle limite ainsi franchie ?
Bah, sincèrement, donc c'est préoccupant. Nous, on vit, nous, qui on travaille sur un système océanique, mais aussi sur le climat, on est préoccupé depuis plusieurs années. Et notre degré des préoccupations s'empire avec les temps. Et donc, on voudrait que ces indicateurs, ces limites, puissent aider à prendre conscience du problème qui n'est pas uniquement climatique et qui a surtout un impact qui n'est pas juste un réchauffement, mais c'est un impact sur les écosystèmes, sur la nature en général et donc sur la société humaine aussi. Mmh.
Laurent Bob, est-ce qu'on peut expliquer juste la différence entre une limite planétaire et un point de bascule ? Parce qu'on évoque aussi souvent ces points de bascule.
Oui, il y a un peu de confusion finalement dans l'utilisation même des termes et du terme limite planétaire qui fait penser à un point de bascule. Alors je vais peut-être redéfinir ce que c'est qu'un point de bascule et puis ensuite on discutera des limites planétaires et peut-être aussi des limitations, des critiques qu'on peut apporter à ce cadre conceptuel. Donc un point de bascule, c'est un seuil critique dans un système complexe. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est un seuil au-delà duquel le système bascule vers un autre état stable, qui est souvent irréversible à l'échelle humaine.
Donc c'est ça, il y a cette notion d'irréversibilité qui est majeure dans le point de bascule.
Il y a l'idée que le système répond de façon très non linéaire à ce forçage, aux modifications apportées par les sociétés humaines, et qu'on bascule dans un nouvel état et qu'il sera impossible, en tout cas à l'échelle de vie humaine, de revenir vers l'état antérieur. Il y a ça derrière le point de bascule. Et ces points de bascule, ils sont nombreux, complexes, étudiés aujourd'hui par de nombreux scientifiques. On discutera peut-être de la circulation océanique, de la fonte du permafrost, de la fonte des calottes polaires. C'est à ça qu'on doit penser quand on pense point de bascule. Ouais.
Et alors, quand on parle de limite planétaire avec l'acidification, par exemple, on parle de quoi ? Alors, on n'est pas dans un point de non-retour encore.
Voilà, donc là, c'est un peu plus flou, ce concept de limite planétaire, même si il se réfère plus ou moins à ces points de bascule. En fait, à chaque limite planétaire, on ne peut pas définir de point de bascule. Pour certaines limites planétaires, il y a potentiellement un point de bascule, mais c'est beaucoup plus dur. Et donc, c'est à penser plutôt dans un cadre presque politique, d'alerte sur ces grandes crises environnementales, plutôt qu'un cadre scientifique très strict, avec la définition plus stricte que j'ai donnée sur ce que c'est qu'un point de bascule.
Donc c'est pour réveiller les politiques aussi, Sabrina Spech ?
Tous ces limites planétaires sont prises en compte dans beaucoup des publications des Nations Unies.
Oui.
Et donc, c'est pour attirer vraiment l'attention des décideurs.
Oui. Laurent Bob, expliquez-nous par quel mécanisme, justement, l'océan s'acidifie quand le CO2 augmente dans l'atmosphère. Qu'est-ce qui se passe alors ?
Mathieu, c'est très simple. L'océan s'acidifie parce qu'il nous aide et parce qu'il absorbe du CO2. Et le CO2, une fois dissous dans l'eau de mer, est un acide, l'acide carbonique. Et donc, cette absorption de CO2 va conduire à une acidification de l'eau de mer.
Mais comment se fait l'absorption, justement ? Puisqu'on parle de CO2 dans l'atmosphère, comment il arrive dans les océans ?
L'absorption se fait uniquement de façon physico-chimique. En fait, on a un gradient de concentration à l'interface entre l'air et la mer. Et comme le CO2 augmente plus vite dans l'atmosphère que dans l'océan de surface, ce gradient augmente et ça conduit à un flux net de dissolution du CO2 en excès dans l'atmosphère, dans les eaux de surface. Et ensuite, ce CO2 est transporté en profondeur, et l'acidification ne va pas que intéresser les eaux de surface, ça va intéresser l'océan dans son ensemble. Et derrière l'acidification, peut-être encore un mot.
Ouais.
Quand on pense acidification, on pense augmentation de l'acidité, qu'on mesure avec le pH de l'eau de mer. Donc on voit cette baisse du pH qui témoigne de l'augmentation de l'acidité. Mais il y a beaucoup d'autres modifications de la chimie de l'eau de mer qui sont en lien avec cette acidification de l'océan. Et c'est de ça aussi dont on doit parler quand on parle de l'acidification de l'océan.
Alors c'est vrai que le pH est bien connu, en tout cas du grand public. Est-ce qu'on voit une baisse très notable depuis ces dernières décennies, justement, dans les océans ?
On voit une baisse très notable. Alors évidemment, on n'a pas de mesure précise de la situation il y a plus de 100 ans ou plus de 150 années.
Ouais.
Mais on a des reconstructions du pH au 19e siècle. On a des modèles aussi qui nous permettent de comprendre la vitesse à laquelle l'océan s'acidifie. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'océan a perdu un dixième d'unité pH.
Donc et ça veut dire quoi ?
Ça peut faire très faible. On dit un dixième d'unité pH, des unités pH, il y en a 14. Donc c'est tout petit sur l'échelle du pH. Mais quand on s'intéresse à l'acidité, c'est la concentration de protons, d'ions H+, dans l'eau de mer, qui témoigne de l'acidité. Et cette concentration, elle a augmenté de plus de 30%. Et donc ça, c'est une modification fondamentale de la chimie de l'eau de mer, avec des répercussions dont on va parler importantes sur les écosystèmes marins.
Donc ça, c'est un des indicateurs, finalement, le pH sur l'acidification. Il y en a d'autres importants pour,
il y en a beaucoup
vous,
d'autres.
Physico-chimiste
voilà. Il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a un autre dont on va parler quand on parlera de la limite planétaire et de la façon dont ça a été défini. C'est une variable qui est dérivée du pH et qu'on appelle l'état de saturation pour l'aragonite.
Donc, très joli, mais ça veut dire quoi ?
Très joli, beaucoup de mots compliqués. Alors d'abord, peut-être revenir sur ce que c'est que l'aragonite, et puis ensuite je parlerai de la saturation pour l'aragonite. L'aragonite, c'est un carbonate de calcium, c'est un minéral qui ressemble à la calcite, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Ce sont des minéraux dont les organismes vont s'entourer ou avec lesquels ils vont fabriquer leur squelette. Donc les coquilles, les squelettes de beaucoup d'organismes sont en aragonite. C'est le cas pour les coraux. Donc un squelette corallien, c'est de l'aragonite. C'est aussi le cas pour certaines coquilles de bivalves sur nos côtes, les huîtres, les moules, on va aussi trouver de l'aragonite. Et enfin, c'est le cas pour certains organismes de toute petite taille, il y a certains planctons qui font des coquilles en aragonite.
Oui.
Alors qu'est-ce que c'est que l'état de saturation pour l'aragonite ? C'est un état chimique de l'eau de mer qui nous indique, à partir d'un certain seuil, que chimiquement, l'eau de mer va dissoudre ce minéral, l'aragonite. Et donc on suit l'évolution de cet état de saturation. Quand il franchit un certain seuil, on se retrouve dans une situation chimique où les organismes vont avoir beaucoup plus de mal à fabriquer leurs coquilles, leurs squelettes, parce que chimiquement, ce minéral va se dissoudre dans l'eau de mer.
Donc ça, c'est absolument central, justement, quand on veut étudier les écosystèmes, cet indicateur-là en particulier. Hein.
Cet indicateur-là, il est central pour étudier certains organismes qui sont les plus menacés sans doute par l'acidification, ce sont tous les organismes calcifiants, donc ceux qui fabriquent des coquilles et des squelettes en calcaire, en aragonite et ou en calcite.
Sabrina Pêche, qu'est-ce qu'on a comme moyen d'observation pour suivre l'acidification à la fois en surface et puis un peu plus profondément dans nos océans alors.
Donc naturellement, il n'y a pas des satellites pour mesurer ces types de variables biochimiques.
Dommage.
Oui, donc il faut aller sur la mer et donc en général on y va avec un bateau et donc on mesure plus aisément peut-être les pH en surface. Donc on a des séries temporelles, donc des enregistrements pendant un certain temps, surtout des pH en surface. Quand on commence à mesurer les flux de CO2 entre l'océan et l'atmosphère, ça demande un peu plus des instruments un peu plus
sophistiqués, on va dire.
Et pour mesurer tous les restes de cette chimie des carbonates et de la partie aussi biologique, hein, ça demande beaucoup d'eau et des spectromètres, des instruments assez sophistiqués. Et donc ça dépend aussi beaucoup des temps. Quand on veut être très précis, on fait des observations à partir des campagnes océanographiques. Et donc, il faut déployer des instruments jusqu'au fond, les reporter à la surface. Ça fait déjà entre 3 et 5 heures. Et ensuite, faire les analyses derrière en vidant de grosses bouteilles d'eau qu'on a récoltées à différentes profondeurs.
Et tout ça dans plusieurs parties du monde.
Alors, donc pour une campagne classique pour aller de l'Europe vers les États-Unis, donc pour chercher d'avoir déjà en mesure dans l'océan Atlantique, on met au moins, au plus de mois. Et c'est les coûts d'un bateau pour au mois des campagnes, c'est entre 35 000 et 50 000 euros. Et donc ces mesures sont absolument importante parce que toutes les autres mesures un peu plus simples que, par exemple, on peut faire avec des robots comme les flotteurs à argot,
oui.
qui sont des bouées. Qui dérivent et qui remontent, c'est des mesures qui ne sont pas complètes, ce sont des mesures automatisées qui n'ont pas la même précision, et donc les mesures faites par bateau sont absolument nécessaires.
Tout ça dans un contexte de contraintes budgétaires.
Hein, et donc, pour vous dire, les systèmes d'observation qui devraient être une infrastructure des recherches globales, donc dépendent toujours, partout, des ministères de la recherche. Donc, quand il y a une contrainte budgétaire sur n'importe quelle nation, c'est la recherche en général qui souffre, et donc aussi tout ce qui est observation.
Et donc, des données qu'on ne peut plus avoir de la même manière.
Et des données qu'on ne peut plus avoir. On ne peut plus avoir des enregistrements qui perdurent dans les temps. Et d'ailleurs, hier, il y a eu la journée d'information à la COP30. C'était vraiment tout centré sur l'observation et en particulier de l'océan.
Laurent Bopp, avant de marquer une pause, est-ce que toutes les régions du monde sont marquées de la même manière par rapport à ces seuils de risque aussi?
Non, c'est assez hétérogène pour l'acidification en particulier. C'est pour ça aussi que la notion de limite planétaire, qui serait une valeur globale qu'il ne faudrait pas dépasser,
ne veut rien dire,
limites,
en fait.
À ses limites également. Et donc c'est aussi critiquer ce concept de limite planétaire en raison de l'hétérogénéité spatiale, des effets, des différentes crises environnementales. Oui, l'acidification et les organismes menacés par l'acidification, c'est très différent en fonction des régions. Et donc on a coutume de dire que les régions les plus menacées par l'acidification sont plutôt les régions froides, donc l'océan Arctique, le Pacifique Nord et l'océan Austral.
Pourquoi?
Parce que naturellement, ce sont des régions qui sont déjà pas très loin des niveaux de saturation faibles dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est les régions dans lesquelles nous allons franchir ce niveau de saturation, à partir duquel l'aragonite va se dissoudre le plus rapidement possible.
C'est régions qui se réchauffent le plus vite aussi. Hein.
C'est des régions... Alors, l'Arctique, c'est vrai. Ouais. L'Austral, c'est pas vrai. Donc, c'est pas lié au réchauffement uniquement. En Arctique, c'est lié en partie à la fonte de la glace qui fait qu'il y a beaucoup de CO2 qui entre et c'est pour ça que ça s'acidifie. Mais c'est aussi des eaux froides au départ avec une saturation qui est déjà faible naturellement.
On verra dans un instant les conséquences concrètes de cette acidification sur la vie marine. Et puis, vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent pour vous sur franceinter.fr.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
D'un point de vue métabolique, l'animal va être obligé de faire des efforts plus importants pour pouvoir vivre, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se déplacer éventuellement, pour pouvoir se reproduire. Ce CO2 plus important qui se dissout dans l'eau de mer se dissout aussi dans le sang des poissons. Cela va perturber ses capacités neurosensorielles en particulier. Donc, vous allez avoir un animal qui, au lieu d'être craintif, comme il doit l'être dans un milieu où il y a beaucoup de prédateurs, eh bien, va perdre un peu cette crainte.
La voix du directeur de recherche de l'IFREMER, José Zambonino, c'était en avril 2024 sur RFI dans l'émission C'est dans ta nature. Sabrina Spech et Laurent Bob, vous êtes océanographes et nous évoquons avec vous cette limite planétaire qui vient d'être franchie, celle de l'acidification des océans. Alors qu'est-ce qu'on observe concrètement aujourd'hui sur les organismes marins, Laurent Bob, organismes qui vont des microalgues aux coquillages en lien avec ce phénomène?
Oui, donc cet extrait, il est intéressant parce qu'il montre que ce ne sont pas seulement les organismes calcifiants dont je parlais qui sont potentiellement affectés par l'acidification, mais l'ensemble des organismes marins qui vivent dans un milieu qui s'acidifie, des poissons jusqu'aux micro-organismes.
Ouais.
Et on parle des organismes planctoniques ici. Alors finalement, la première source d'information, c'est des expériences en laboratoire. Depuis plusieurs dizaines d'années, depuis que cette thématique d'acidification est montée dans le milieu scientifique, il y a un certain nombre d'expériences qui permettent de montrer en laboratoire comment ces organismes réagissent quand le pH de l'eau de mer baisse ou quand l'eau de mer s'acidifie. Et donc ces expériences ont montré des difficultés de développement, de croissance pour un grand nombre d'organismes. On peut parler des oursins avec les stades larvaires qui sont affectés par l'acidification. On peut parler évidemment des huîtres et des moules.
Oui.
Les stades larvaires, eux aussi, plus de mal à se fixer. Les croissances sont ralenties. Et puis on peut aussi parler de certains types de phytoplancton ou de zooplancton où là aussi, les fonctions biologiques sont affectées par l'acidification.
Donc tout ça avec des chutes de pH, en fait, c'est tout à fait lié entre ce qu'on observe sur les organismes marins et les phénomènes physico-chimiques.
Voilà, exactement. En fait, le fait de travailler en laboratoire, ça permet de décorréler les différents facteurs qui affectent le milieu vivant. De travailler séparément sur la température, sur la baisse du pH, de travailler sur la baisse de l'oxygène, par exemple. Dans le milieu naturel, quand on observe les écosystèmes naturels, c'est compliqué. par nature, parce que c'est un milieu complexe, parce que l'écosystème est complexe, et aussi parce que vous avez cette multitude de facteurs qui sont modifiés en même temps. Les eaux se réchauffent, les eaux s'acidifient, les eaux perdent de l'oxygène, et on trouve dans certaines zones moins en moins de nutriments. Et donc il faut essayer de comprendre comment tous ces facteurs interagissent et affectent l'écosystème.
Sabrina Spéger, il faut faire la distinction là aussi entre la température et l'acidification, parce qu'on a un peu l'impression de parler de la même chose, mais pas tout à fait en réalité. Hein.
Non, ce sont deux ingrédients, deux variables qui sont très importantes pour les écosystèmes marins. Donc l'océan, on parle toujours de l'atmosphère comme un réchauffement, mais c'est l'océan qui absorbe 90% de du surplus des chaleurs générées par l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc on voit déjà localement et de plus en plus, par exemple, des grandes vagues de chaleur, comme on les trouve sur les continents aussi dans l'océan.
Canicules marines.
Et on les appelle canicules marines. Et donc ces canicules marines ont un impact très fort sur les écosystèmes, sur les premiers vents maîtres, on pense aussi même plus profond. Et donc, il faudrait être capable de comprendre les processus d'acidification locale, plus les processus de ces augmentations de la chaleur constante, plus les canicules marines. Donc, les écosystèmes se retrouvent face à un nouveau monde dans l'océan qui les perturbe. Et donc, de voir ce qui perturbe les plus, c'est très compliqué.
Un nouveau monde complexe. Hein, donc, on comprend bien d'après ce que vous nous dites, Laurent Bopp.
Oui, un cas d'étude triste, hein, c'est le cas des récifs coralliens qui sont affectés par cette double menace, la menace des vagues de chaleur dont parlait Sabrina, et l'acidification. De façon peut-être un peu caricaturale et générale, finalement, les récifs coralliens, ils sont surtout frappés par les vagues de chaleur qui adviennent certaines années avec des taux de mortalité dans les récifs coralliens qui sont très importants quand la température augmente et dépasse certains seuils. Ce qu'il faut imaginer, c'est que l'acidification s'ajoute à cet effet des vagues de chaleur et va diminuer la résilience de ces récifs coralliens à long terme. Et donc on a vraiment cette double menace qui se conjugue et qui met en danger ces écosystèmes importants.
Est-ce que cette acidification joue sur l'oxygénation aussi des océans ou pas ? Est-ce que le processus est intimement lié ?
Non, c'est en fait très découplé. Si on veut, encore une fois, raisonner de façon un peu caricaturale, on a d'un côté le changement climatique qui est lié à l'augmentation des gaz à effet de serre, au CO2 en particulier, donc augmentation des températures dans l'eau de mer, et la baisse d'oxygène, donc la déoxygénation, est dans l'océan ouvert liée à l'augmentation des températures et à la modification de la circulation océanique. Donc on peut ranger ensemble, en termes de causes, le réchauffement et la déoxygénation. L'acidification, finalement, c'est parallèle au changement climatique, mais ce n'est pas le changement climatique. Ça a une cause commune, l'augmentation du CO2, mais ce n'est pas le réchauffement des eaux ou le réchauffement de la planète qui explique l'acidification. C'est pour ça d'ailleurs que dans les limites planétaires, dans les 9 limites planétaires dont on parlait, vous avez deux limites séparées, pour le réchauffement climatique, le changement climatique d'une part, et pour l'acidification d'autre part.
Donc grâce à vous, on met les choses dans les bons tiroirs. Autre exemple des changements liés à l'acidification avec les sèches, on va écouter Thomas Lacoula-Barthes, il est chercheur CNRS à l'Université de La Rochelle. C'était au micro de la Science CQFD il n'y a pas longtemps, le 27 octobre.
Les sèches développent toutes ces capacités de camouflage dans les premiers mois de leur vie. L'expérience menée par Thomas Lacoula-Barthes a donc cherché à comprendre comment une eau plus acide peut affecter ce développement à un âge juvénile.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a prélevé des œufs fraîchement pondus dans le milieu, dans différentes conditions de pH. Hein. On a eu des effets sur les comportements antiprédateurs.
Quand vous dites antiprédation, c'est quand les sèches sont attaquées.
La sèche, voilà, qui a été élevée en conditions acidifiées, n'a qu'une seule couleur sur tout le corps. Et donc, elle est beaucoup plus visible, finalement, sur ces types d'environnements qu'une sèche qui est capable de se camoufler.
Voilà, autre exemple sur France Culture, donc en octobre dernier, Laurent Bopp. Celui de la sèche.
Oui, un autre exemple pour montrer que l'ensemble des organismes finalement marins peut être affecté par l'acidification de l'océan.
Et donc même les grands prédateurs, hein, on le disait tout à l'heure, ça peut être aussi des poissons.
On parlait de poissons
de la chaîne alimentaire.
Exactement, dont les sens peuvent être affectés par le fait que l'eau soit plus acide.
Ouais. Sabine Aspech, quelles rétroactions climatiques sont attendues si l'océan, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un puits de carbone évidemment très très important pour absorber le surplus de l'atmosphère, qu'est-ce qui peut se passer justement si ce puits de carbone devient moins efficace ?
Justement, donc, c'est la grande peur des océanographes, c'est que ces puits de carbone soient moins efficaces. Donc, ils absorbent environ 25-30% du CO2 émis.
C'est énorme, hein, quand même, hein,
oui,
à l'échelle de la planète.
Oui, voilà. Donc, l'autre grande moitié, c'est la végétation et les sols continentaux. Mm-hmm. Et donc, ces services de l'océan pourrait diminuer du fait de cette capacité amoindrie d'absorber du CO2 pour différentes raisons. D'une part parce que il y a moins de biologiques capables d'absorber ces CO2 et de la chimie de l'océan, et aussi parce que l'océan devient plus stratifié et donc il va émettre beaucoup moins facilement du CO2 vers les grandes profondeurs. Et donc on peut observer une accélération du changement climatique, donc du réchauffement, à cause du fait qu'on augmente la quantité des CO2 qui va rester dans l'atmosphère.
Et est-ce qu'on peut dire que ces puits de carbone baissent déjà, Laurent Bob, dans l'océan? Parce qu'on le sait pour les forêts, par exemple, hein, les arbres sont moins en capacité de capter du carbone.
Oui, alors ce qu'on peut dire quand même, c'est que sur les dernières décennies, on a plutôt des observations qui nous montrent un puits de carbone assez résilient, qui continue à absorber une part significative de nos émissions, autour de 25 à 30%. Alors il y a quelques indications à partir d'études théoriques qui montreraient qu'on aurait déjà perdu de l'ordre de 5% de cette capacité à absorber du CO2. Et donc si on revient sur cette capacité à absorber du CO2, où il y a toutes les raisons dont parlait Sabrina, et ça enclenche une sorte de cycle compliqué, une rétroaction dans le système qui fait que plus on réchauffe, moins l'océan absorbe, plus une part du CO2 reste dans l'atmosphère, plus on réchauffe. Ça, c'est les mauvaises nouvelles. Et par contre, peut-être je parle d'un autre scénario, un scénario plus positif, celui dans lequel on serait capable de faire baisser nos émissions de façon importante, et un scénario dans lequel on serait capable de stabiliser le CO2. Là aussi, l'océan absorberait de moins en moins de carbone. Encore une fois, parce que le moteur de l'absorption du CO2, c'est le fait que le CO2 augmente dans l'atmosphère. Je parlais des gradients à l'interface air-mer. Donc si on stabilise le CO2, l'océan absorbe moins de CO2. Plutôt une bonne nouvelle, c'est le résultat du fait qu'on ait stabilisé le CO2. Oui. Mais ce que ça veut dire, c'est que si ce puits diminue jusqu'à zéro potentiellement, il faut que nos émissions diminuent aussi jusqu'à zéro. Nous n'aurons plus de puits dans un monde où le CO2 sera stabilisé à long terme. C'est pour ça qu'on parle des objectifs net zéro, ça permet de bien le comprendre.
Oui, mais comment le croire? Comment croire qu'on sera en capacité de le faire aujourd'hui, alors que, au contraire, nos émissions ne cessent d'augmenter?
Nos émissions ne cessent d'augmenter, vous avez raison, mais peut-être on peut relever quelques signes plus encourageant, si vous me le permettez.
Ah ben, on ne va pas s'en priver, si on a, allez-y.
Oui, il y a des résultats très récents là, de Carbon Monitor. C'est un programme international, ils suivent les émissions de carbone dans les différents pays. Alors, il y a des chiffres inquiétants, les émissions qui repartent à la hausse aux États-Unis en particulier. Et puis, il y a des éléments peut-être plus positifs. Le fait qu'en Chine, les émissions liées à la combustion des fuels fossiles ont diminué pour la deuxième année. Peut-être un pic d'émissions plutôt que ce qui avait été annoncé par la Chine en 2015 et les années qui ont suivi pendant l'accord de Paris. Donc, regardons aussi le verre, pas complètement vide, avec un peu d'eau quand même.
Allez, on verra dans un instant quelles sont les façons de réduire cette acidification, avec les messages et les questions qui arrivent pour vous sur franceinter.fr.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Bonjour, le Maryland. Je me trouve à Claridge qui accueille la fête annuelle du 4 juillet.
Il y a un problème avec l'eau.
Danny, qu'est-ce que c'est?
Je sais pas, j'ai jamais rien vu de pareil.
Merde, cette bestiole m'a mordu!
Ne descends surtout pas de ce bateau.
On peut pas fermer la zone côtière sans avoir eu au préalable l'accord des pouvoirs publics.
Comme vous pouvez le voir, il y a des parasites.
Oh, quelle horreur!
Les isopodes ont dévoré la langue du poisson.
Ça va aller.
Extrait du film The Bay, sorti en 2013, dans lequel une bactérie contamine un lac américain en raison d'une pollution industrielle. Sabrina Spech et Laurent Bopp, vous êtes océanographes, on parle de l'acidification des océans. Est-ce que la pollution industrielle joue le même rôle que l'acidification dans les océans ou pas, Laurent Bopp?
Oui, c'est une comparaison compliquée. Il y a des différences et puis il y a des similitudes.
Parce que c'est l'histoire de ce film, du scénario, oui, catastrophe.
Les similitudes, finalement, c'est les modifications quasiment invisibles qui affectent le milieu, souvent sur des temps assez longs. Donc difficile de repérer, difficile de mesurer, et donc difficile d'agir. Donc ça serait peut-être sur la similitude. Les différences, un peu par nature, finalement. L'acidification, comme le changement climatique, c'est une crise globale. Pourquoi? Parce que le CO2 a une longue durée de vie dans l'atmosphère, il se mélange partout, et donc l'acidification a lieu partout, et le changement climatique a lieu partout également. Et en raison de cette crise globale, on a besoin de la régler de façon collective. les problèmes de pollution, que ce soit les pollutions du sol, même des pollutions atmosphériques ou les pollutions de l'eau, c'est souvent plus localisé, à la fois régionalement, voire même dans des lacs américains, comme cet exemple-là. Et donc ça doit aussi pouvoir se régler de façon locale et ou régionale. Donc c'est des différences assez importantes sur la façon dont ces deux crises, ou ces quelques crises environnementales, affectent notre environnement et nous affectent nous aussi.
Sabrina Spech.
Oui, mais je voudrais juste faire un petit bémol. Donc si on prend les plastiques, qui est juste un indicateur, les plastiques aujourd'hui, les microplastiques, on les trouve partout. L'océan et l'atmosphère sont des fluides globaux qui transportent des propriétés et les transportent l'atmosphère très rapidement partout, et l'océan aussi, un peu plus lentement. Donc quelque chose qui est local, très fort, peut être dilué dans l'océan global, mais quand même, il y a du transport.
Laurent Bopp, on parlait beaucoup dans les années 70-80 des forêts vosgiennes et de leurs pluies acides, dans les forêts allemandes d'ailleurs également. Est-ce qu'on peut faire là aussi un comparatif entre l'acidité des forêts et celle des océans ? C'est le même mécanisme ou pas ? Parce qu'il y a eu un phénomène plutôt de résilience aussi dans les forêts vosgiennes, non ?
Oui, alors peut-être le comparatif, c'est la résilience des systèmes vivants. Les forêts, le plancton, si les impacts sont diminués ou amoindris, le vivant est sacrément résilient. Et donc, on a vu les forêts vosgiennes repartir, alors affectées aujourd'hui par d'autres effets, le changement climatique en particulier, je peux en témoigner. Et dans l'océan aussi, on peut s'imaginer que si on est capable de limiter les modifications environnementales, le vivant est résilient et sera capable de repartir. Des différences néanmoins importantes, les pluies acides, c'est pas le CO2, c'est pas le changement climatique, c'est le soufre qui était dans nos émissions, et donc c'est ce soufre-là dans l'atmosphère qui retombait sur Terre sous forme de pluie acide. Encore une fois, le changement climatique et l'augmentation du CO2, en tout cas l'augmentation du CO2, c'est la cause de l'acidification.
Sabrina Spech, que faut-il faire maintenant si on veut lutter efficacement contre l'acidification ? Si vous deviez donner une sorte de hiérarchie des priorités, quelle serait la première mesure, selon vous, à l'échelle mondiale ? Je crois que je connais à peu près la réponse, mais quand même...
La première, c'est sans doute arrêter l'émission des carbones fossiles. Et ensuite, naturellement, même dans l'accord de Paris, il y avait ce qu'on avait appelé les émissions négatives. Et donc ça, c'est quelque chose qui a à voir avec l'absorption un peu gérée par les activités humaines, industrielles, aux solutions naturelles, du CO2 par exemple.
Donc éviter d'émettre des gaz à effet de serre, évidemment. Et sinon, Laurent Bopp ?
Oui, donc pour parler de solutions, souvent on a l'habitude de séparer les solutions face au changement climatique ou face à l'acidification. Ça sera un peu pareil en deux grands types de solutions, les deux grands piliers de solutions. Donc l'atténuation de l'acidification ou du changement climatique, d'une part, donc évidemment la réduction massive des émissions de CO2 ou d'autres techniques dont on pourra parler qui nous aideraient à peut-être retirer du CO2 de l'atmosphère, ça c'est la partie atténuation.
Oui.
Et puis après, sur la partie adaptation, on peut aider certains organismes à s'adapter à l'acidification, on peut aider certaines pratiques humaines qui dépendent de l'océan à s'adapter à l'acidification.
Oui. Le monde de la pêche, il souffre beaucoup déjà de l'acidification.
Alors pour l'instant, le monde de la pêche, il souffre beaucoup de l'effondrement des stocks et donc de l'effet de la pêche elle-même. Par contre, la conchyliculture, la mytiliculture, ce sont des secteurs d'activité qui souffrent déjà de l'acidification. Alors peut-être un peu moins sur nos côtes, ça commence sans doute à être le cas, mais sur la côte des États-Unis, en tout cas dans l'ouest des États-Unis, il y a quelques exemples de sociétés qui ont dû migrer pour éviter des eaux qui devenaient de plus en plus acides avec des impacts importants sur les organismes qu'ils cultivaient.
Mais nous avons toutes les clés en main pour renverser la vapeur. Laurent Bopp, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, il y a quand même... Le carnet de route, il est clair quand même aujourd'hui.
Le carnet de route, il est assez clair. On sait ce qu'il faut faire, en tout cas. On sait la vitesse à laquelle il faut réduire nos émissions pour limiter le réchauffement à 1,5. Ça va être difficile.
On le sait déjà, en tout cas,
le plus près possible d'1,5 degré. Et peut-être la première bonne nouvelle, c'est que si on est capable de limiter le réchauffement et de stabiliser à autour d'1,5 degré, ça limite et ça stabilise également l'acidification et donc les impacts de l'acidification sur les organismes vivants.
Allez, on va passer aux questions parce qu'elles sont nombreuses pour vous. Violette pose une première question en nous disant « Devant ce constat accablant, pourquoi les chercheurs experts des océans ne rejoignent pas les associations ou la politique ?» Ah ! Sabrina Spech, alors...
Donc il faut dire que...
La chercheuse citoyenne ou politique...
Mais on les fait de différentes manières. Donc quand on était plus jeune, on avait commencé juste à faire de la médiation, intervenir à droite, à gauche. On prend des positions politiques aussi aujourd'hui de plus en plus... on participe, déjà l'effet de participer à l'effort de l'IPCC ou des efforts pour les Nations Unies qui cherchent des coordonnées, beaucoup d'actions scientifiques et réactions donc du côté des gouvernements.
Ouais.
Tout ça, on les fait, mais il faut...
Donc
il faut
c'est bien... les rapports du GIEC, hein, c'est les
travaux... Oui, les rapports du GIEC, ou sinon, par exemple, la coordination des systèmes d'observation qui ouais. est dans le cadre du Global Climate Observing System. Tout ça, ça fait partie du temps libre que nous avons. Donc, nous n'avons pas 48 heures non plus. Mmh. Donc, naturellement, on cherche d'être présent, mais c'est très compliqué d'être présent à côté ouais. des politiques.
Laurent Bob, votre réponse à Violette.
Oui, je dirais qu'il y a une très grande diversité de la façon dont les chercheurs sur ces thématiques-là s'impliquent dans la vie publique, finalement. Je pense que c'est une grande diversité qu'il faut respecter. Certains de nos collègues décident de rester dans leur laboratoire et de faire 100% ou 150% de science tous les jours pour faire avancer les connaissances, et on a besoin d'eux. On a aussi besoin de chercheurs, d'enseignants qui communiquent, qui font de la médiation, de la vulgarisation et qui expliquent à tous, au grand public et aux politiques. Et puis enfin, on a besoin de chercheurs qui font de l'expertise, qui rédigent des rapports, et puis on a besoin de chercheurs militants aussi, qui s'investissent dans des associations, qui s'investissent pourquoi pas dans des partis politiques. On a besoin de cette grande diversité, et elle existe.
Marie demande, qu'est-ce que ça signifie concrètement de dépasser la limite planétaire pour l'acidification ? Si on devait résumer ce qu'on vient de se dire pendant toute l'émission.
Ça signifie que les organismes marins ont à faire face à cette nouvelle menace liée à l'acidification, et il faut s'attendre à des impacts de plus en plus prégnants. Et donc ce que nous dit ce dépassement de cette limite planétaire, c'est que dans certaines zones, en particulier dans l'océan Arctique, dans le Pacifique Nord, les écosystèmes déjà frappés vont l'être encore ouais. plus.
Paolo demande, est-ce que les coraux vont disparaître, Sabrina Spech? Totalement.
Si on regarde les projections du GIEC, c'est ce qui va se passer. Donc, du fait du réchauffement et du fait de l'acidification. Donc, ouais. La limite à 2100, ça fait vraiment très peur.
Prune dit, je remarque une injonction à avoir une position optimiste, à chercher des solutions qui nous empêchent de voir la gravité. Devrait-on commencer à parler d'écologie réaliste et non punitive et imposer des régulations ?
Oui, imposer des régulations, évidemment que c'est une solution, la solution, pour répondre aux objectifs, en particulier aux objectifs climatiques, qui sont aussi les objectifs pour limiter l'acidification.
Ouais.
Je reste un instant sur ce terme d'optimiste ou de positif. On est tous différents, et je crois que pour certains d'entre nous, en tout cas, de voir certains progrès accomplis, ça peut aussi servir de moteur, de motivation pour continuer à agir. Donc c'est pour ça que j'essaie... Quand on va parler là, des 10 ans de l'accord de Paris, de montrer tout ce qu'on n'a pas réussi à faire,
oui.
et on n'est pas sur la trajectoire pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, mais de montrer aussi ce qu'on a réussi à faire grâce à cet accord et grâce à une mobilisation certaine après l'accord.
Et alors, qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce qu'on a réussi
à faire en 10 ans ? Moi, je retiens, c'est qu'on n'est plus sur la trajectoire d'un réchauffement à 4 ou 5 degrés qui était celle qu'on envisageait, qu'on imaginait avant l'accord de Paris. Aujourd'hui, la trajectoire, si les politiques climatiques en place restent appliquées, c'est plutôt 2,8-3 degrés.
Ce qui est déjà pas terrible du tout.
Ce qui est déjà pas terrible du tout, ouais.
mais mieux
on imagine même pas ce qu'aurait été un monde à 4 ou 5 degrés. Donc là, aujourd'hui, on est 2,8-3 degrés. Avec certaines des promesses de net zéro, on serait peut-être à 2,3, peut-être même un peu en dessous. Il y a beaucoup d'efforts encore à faire, mais mesurons ce qui a déjà été fait. Ouais. Ça permet de motiver certains, c'est sûr.
Mais sauf que les scénarios à 4 degrés, ils existent quand même, Sabrina Spech. C'est pas exclu qu'on soit dans un scénario à 4
oui,
degrés à la fin du siècle.
Justement, là, c'est toute la question des projections. Ça dépendra des choix et ça dépendra. Donc, on a une grande incertitude sur la frontière 2100. Donc, effectivement.
Anne-Marie nous dit, que pensent vos intervenants des cimetières de CO2 dont on parlait la semaine dernière dans l'émission, en Norvège en particulier. Autre question de Patrice, toujours sur le stockage artificiel dans les entrailles de la Terre. Est-ce que ça n'est pas une fausse solution, encourageant finalement la production de ce gaz ? Et d'ailleurs, est-il possible à grande échelle ?
Oui, donc on parle des méthodes d'élimination du CO2 atmosphérique. Donc c'est l'idée
en stockant dans les entrailles,
alors, en stockant dans les entrailles de la Terre, donc ça c'est le stockage géologique du CO2, mais il y a certaines méthodes qui visent aussi à stocker du CO2 dans l'océan, en fertilisant le plancton, en changeant la chimie de l'eau de mer, en renversant l'acidification par exemple. Donc il y a beaucoup d'études, de plus en plus d'études sur ces méthodes d'élimination du CO2. Oui, donc on est sur une crête. Pourquoi ? Je pense qu'en même temps, on a besoin de réfléchir à ces méthodes et d'apporter de la science solide sur ces méthodes, parce que à terme, on aura besoin de ces méthodes d'émissions négatives pour compenser certains secteurs difficiles à décarboner et pour aller vers des émissions nettes négatives si on veut dépasser l'overshoot. Et en même temps, il ne faut pas donner l'idée qu'on pourra compenser l'ensemble de nos émissions d'aujourd'hui, c'est absolument impossible. Donc la priorité numéro un, c'est réduire les émissions, et on peut travailler sur ces solutions pour le plus long terme.
Eh bien, ce sera la conclusion de cette Terre au carré. Réduisons nos émissions, pas de radio, mais de CO2. Merci beaucoup en tout cas à vous deux, Laurent Bopp et Sabrina Spech, d'être venus nous parler de cette nouvelle limite planétaire qui vient d'être franchie.